You're with SBS Radio.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Radio SBS Virginie André, conférencière qui est de passage en Australie et elle est attachée au Victoria University, précédemment à Deakin University. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent, parlez-nous de votre travail, de vos recherches sur la radicalisation.
Oui, alors en fait, je travaille sur la problématique de la radicalisation depuis presque 12 ans. Malheureusement, c'est un peu long. On aimerait avoir une perspective un peu plus positive, mais ça fait à peu près 12 ans maintenant que je travaille sur cette thématique. Et plus récemment, depuis le début de l'année dernière, en fait, je me suis concentrée également sur la relation entre le reportage médiatique du terrorisme et l'impact que ce reportage en particulier avait sur ce qu'on appelle les frontline practitioners, donc les praticiens de première ligne, et aussi notamment sur les jeunes, tout en se posant la question de savoir si le reportage médiatique du terrorisme avait un impact aussi au niveau de la radicalisation, ou était susceptible de radicaliser des individus vu le reportage médiatique du terrorisme, qui parfois peut être problématique.
Et donc c'était en Australie, ces recherches ?
Alors, ces recherches ont commencé dans un premier temps en Australie, mais également en Europe. Et donc, j'ai organisé en janvier 2018 une première table ronde à Londres, qui a réuni des journalistes européens, donc d'Angleterre, de Belgique, de Suède, de Belgique et d'autres. On avait notamment des journalistes de Al Jazeera et BBC qui étaient là aussi, avec donc des praticiens de première ligne européens, donc qui venaient un peu partout d'Europe, et nous avions aussi des collègues australiens qui étaient là et Scotland Yard. Et donc l'idée autour de cette première table ronde était de pouvoir discuter ensemble de manière assez ouverte et franche de l'impact que le reportage médiatique pouvait avoir sur leur travail. Donc que ce soit au niveau du travail de police ou des éducateurs, des travailleurs sociaux. On a également des jeunes qui étaient présents, donc des jeunes belges, français, finlandais, qui ont pu témoigner aussi de l'impact que ce reportage a sur leur vie au quotidien. Et c'était vraiment de pouvoir avoir un dialogue finalement pour montrer que c'était pas uniquement un fantasme autour de ce reportage médiatique et de l'impact direct et concret et pratique qu'il peut avoir sur le travail des personnes qui travaillent dans le milieu de la lutte contre l'extrémisme violent, mais également des communautés et des jeunes gens.
Et donc, quel a été l'impact des médias sur la radicalisation ?
Alors, je pense que quand on parle des médias et de l'impact, il y a une série de distinctions à faire. Quand on parle de la radicalisation, c'est une conversation qui est très difficile à entamer avec les médias parce que, évidemment, il y a la question de la responsabilité, c'est-à-dire du reportage médiatique. Est-ce que les médias sont responsables de la radicalisation de certains individus ? Alors, malheureusement, oui. Il y a certains reportages qui sont problématiques, que ce soit dans la rhétorique, la rhétorique elle-même ou le choix d'image. Donc il y a, je disais tout à l'heure, une distinction. La première, c'est que est-ce que le reportage médiatique sur le terrorisme véhicule la propagande terroriste, hein, dans certains cas, c'est-à-dire quand, par exemple, James Foley a été décapité par Daesh, le journaliste américain, ces images, elles ont fait le tour du monde. Et quelque part, on a un peu fait la pub de Daesh. Donc, c'est-à-dire qu'on a amplifié l'effet de la présence de Daesh, qui finalement était, je veux dire, assez limité, mais vraiment qui a donné une importance à cet événement malheureux, mais aussi au niveau de pouvoir que Daesh puisse avoir sur la scène internationale. Et ça a été véhiculé par les médias. Et donc, quelque part, c'est un peu problématique. Et cette image, aujourd'hui, quand on fait une recherche sur Google, elle a sa propre vie sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai aussi eu l'occasion, au travers de mes travaux de recherche, d'interviewer de jeunes mineurs belges condamnés pour des faits de terrorisme. Et lors de ces entretiens, m'ont confié que leur radicalisation s'était faite par le biais des
images sur les réseaux sociaux.
Des images sur les réseaux sociaux, mais également sur la télévision, par exemple, les chaînes françaises, donc mainstream, où ils peuvent récolter des informations et ça suscite de l'intérêt. Et donc là, on parle plutôt de pathways, pas de radicalisation directe, mais qui guide quelque part les jeunes vers un certain curiosité, un certain intérêt, et qui là alors passe, on va dire, des mainstream médias sur les réseaux sociaux. Et donc ça crée une passerelle, si vous voulez, donc indirecte vers la radicalisation. Alors après, vous avez aussi une radicalisation directe. Si on prend l'exemple, par exemple...
De Christchurch.
Vous avez Christchurch, mais l'exemple dont je voudrais parler, c'est de l'English Defence League. Mm-hmm. Donc un ancien membre de EDL m'expliquait que lui, sa radicalisation, son mécontentement, sa colère, elle s'est vraiment formée autour de son exposition, de sa lecture des tabloïds en Angleterre. Donc ça a créé cette espèce de écho-chambre finalement, avec un terreau fertile qui va amener à une certaine radicalisation. Et après, évidemment, on part à la recherche de certains groupes qui, on va dire, partagent certaines idées communes, comme le English Defence League. Et je pense que dans le cas de Christchurch, on a un élément assez similaire. Donc, ce qui veut dire que dans nos discours politiques, nos hommes politiques et nos femmes politiques et les médias doivent aujourd'hui être beaucoup plus prudents, c'est-à-dire réfléchir par rapport aux images, par rapport aux discours, aux mots qui sont utilisés, comment nous associons ces mots en particulier. Parce que je pense que la leçon à retenir de Christchurch, c'est que plus jamais on doit se retrouver dans une situation comme celle-là. Je pense que, par exemple, parce qu'on parle du reportage médiatique, mais je pense que la rhétorique politique, le discours politique est d'autant important que si on regarde la réaction de la première ministre de Nouvelle-Zélande, au lendemain aux heures qui ont suivi les attaques, ça a vraiment été un message de rassemblement, de solidarité, de paix, de voilà. Et il y a très peu, en tout cas en Nouvelle-Zélande et dans certains pays, il n'y a pas eu beaucoup de couverture médiatique par rapport à l'acteur de ces actes terroristes. On a eu d'autres reportages médiatiques où on l'a décrit d'une manière, que c'était un monstre, que on a donné un visage à cette personne, on a donné un nom à cette personne. Alors la question qui se pose est, doit-on donner un visage et un nom aux terroristes ou pas, ou à l'extrémiste ou pas? Et dans ce cas-ci, le discours politique, il a vraiment été bien cadré parce que c'était vraiment, j'ai envie de dire, couper l'herbe sous le pied à l'acte terroriste pour ne pas l'amplifier et pas lui donner de crédibilité, de légitimité. Et ça, c'est important. Maintenant, si on va, on fait un retour vers le 11 septembre, par exemple, le discours de Bush qui a suivi le 11 septembre était un discours qui a été... empreint d'un langage guerrier, donc de guerre. Donc si on fait une analyse du discours de Bush au lendemain des attentats du 11 septembre, il est très différent de celui de la première ministre néo-zélandaise. Et donc c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, l'impact de ce discours et de cette guerre contre le terrorisme du 11 septembre, on a des générations aujourd'hui qui n'ont pas connu le 11 septembre, mais qui sont affectées par cette rhétorique dans leur vie de tous les jours et la manière dont le regard qu'on porte sur certaines communautés ou sur certains individus. Donc c'est pour ça que vraiment comprendre l'impact que les médias et le discours politique au niveau du terrorisme peut avoir sur les individus, au niveau de la santé mentale, au niveau de la radicalisation, au niveau de la perpétuation de la propagande terroriste, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut plus comment dire, qu'on ne peut plus ignorer, se mettre des œillères et se dire voilà, aujourd'hui je vais publier telle histoire et je vais utiliser tel langage. Et ces choses-là ont un impact, malheureusement. Et donc, quelque part, ça met à mal la cohésion sociale de nos sociétés. Et aussi, je pense que ça met à mal aussi la santé mentale de notre jeunesse et de nos communautés. Et donc, le sens d'appartenance, d'intégration, voilà.
Et vos études vous emmènent à effectuer des recherches sur ce qu'il se passe ici en Australie ?
Alors actuellement, moi je suis axée sur ce qui se passe en Europe et en Amérique du Nord. Par contre, j'ai mes collègues ici qui travaillent sur la situation en Australie. Il y a un rapport qui a été publié récemment, donc je ne suis pas l'auteur, donc je ne me permettrai pas de commenter. Mais je pense qu'il y a un rapport qui a beaucoup de mérite. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui m'a poussée à venir aujourd'hui, c'est de montrer mon soutien envers cette étude, parce qu'elle est très importante dans le sens où aujourd'hui en Australie, on a une montée de l'extrême droite. Cette montée de l'extrême droite, elle n'est pas exclusive à l'Europe ou à l'Amérique du Nord. Et je pense qu'on est encore dans un cycle où on peut encore agir en Australie pour faire face à cette montée de l'extrême droite. Et donc cette étude, si j'ai bien compris, démontre aussi que voilà, certains reportages médiatiques sont partagés sur certaines pages Facebook et les réseaux sociaux de certains groupes ici d'appartenance ou liés à l'extrême droite. Et donc on se pose la question de voir comment ces reportages ou ces informations de nouveau forment cette espèce de écochambre dont je faisais référence tout à l'heure. Et donc ça, c'est assez de nouveau problématique. Et donc on en revient à cette question de la responsabilité des médias, et je pense d'appartenance toutes confondues. On a des médias plus professionnels que d'autres. Je pense que les tabloïdes, exactement. Mais il est important aujourd'hui aussi de se poser la question, voilà, si aujourd'hui je publie cette histoire avec telle image et telle rhétorique, quel va être l'impact que ce reportage va avoir sur la société et les individus et les communautés en général. Je pense aussi que il est quand même important et ça c'est quelque chose que je répète à chaque fois j'organise des événements. Donc là on en a eu à Londres l'année dernière en janvier, et puis à Stockholm, et puis en Finlande. Et cette année-ci on a eu un autre workshop à Rabat et aux États-Unis, et donc à Chicago et Vancouver. Donc on couvre une large partie et les problématiques sont similaires partout là où on se déplace. Mais il est aussi très important, je pense, quand même, de souligner que être journaliste aujourd'hui, c'est un métier très difficile. Et être journaliste et s'occuper des questions liées au terrorisme et à l'extrémisme violent, c'est d'autant plus difficile. Parce qu'il y a le cycle de l'information, il y a les manques de moyens. Et voilà, bon, je ne vais pas continuer sur tous les enjeux et les difficultés que les journalistes peuvent rencontrer, mais j'ai eu le grand privilège de rencontrer des journalistes professionnels, avec une éthique professionnelle, et qui eux-mêmes reconnaissent que parfois c'est très difficile dans le nouvel environnement aussi, et la compétition quelque part avec les réseaux sociaux, le clickbait, entre pouvoir fournir l'information qui est objective et professionnelle avec ce qui se passe, ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux. Et donc ça aussi, c'est très difficile de pouvoir continuer à informer le public tout en faisant face à la vitesse de l'information au niveau des réseaux sociaux. Donc peut-être, juste si on a le temps, je voudrais donner un petit exemple. Donc je ne vais pas donner de date précise, mais quand il y a eu un incident à Londres, un des journalistes de BBC nous expliquait qu'il s'est retrouvé sur place à devoir commenter en live l'événement. Il nous disait voilà, qu'il y avait des personnes qui étaient là à lui poser des questions. Alors, est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est du terrorisme? Il dit, mais j'en sais autant que vous, madame. Donc je ne peux pas spéculer, je ne peux pas... Mais par contre, pendant que ces conversations se passaient, on avait d'autres personnes qui ont peut-être assisté à la scène, etc. Et commencé, donc des monsieur tout le monde, madame tout le monde, à envoyer des tweets, des informations sur les réseaux sociaux et qui parfois ne s'avèrent pas correctes. Et donc, il faut pouvoir aussi recouper les informations et voilà. Donc, ce que je veux aussi dire, c'est que il faut qu'on puisse travailler ensemble au niveau de cette thématique-là et ne pas pointer le doigt vers les uns et les autres, parce que c'est important. Et il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, le travail de journaliste, il est compliqué, qu'il est devenu de plus en plus difficile et que le monde des réseaux sociaux aussi crée de nouveaux enjeux et de nouvelles difficultés par rapport au reportage médiatique quand il est éthique et professionnel, j'ai envie de dire. Donc, voilà.
Virginie André, merci.
Merci, avec plaisir.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.